Je veux juste un peu de paix et de tranquillité. Ma tante a hurlé sur nous dans la cuisine. Mes cousins et moi jouions dans le jardin et nous étions sales et hyperactifs. Ma tante avait eu une longue journée, elle était crevée. Et nous étions la goutte qui avait fait déborder le vase. Je veux juste un peu de paix et de tranquillité. Avez-vous déjà connu la paix et la tranquillité? Aspirez-vous à la paix? Je soupçonne que le cri de ma tante évoque le cri de tout le monde. Nous voulons tous un peu de paix et de tranquillité, n'est-ce pas? Pour nous qui avons grandi après la Deuxième Guerre mondiale, la paix, c'est quelque chose que nous tenons pour acquis. Nous avons passé toute notre vie en paix. Et pourtant, si on y pense, nous ne sommes pas tous en paix. Si vous habitez à Londres, vous allez entendre le bruit constant des sirènes, les avions qui passent au-dessous de vos têtes. Peut-être que vous avez une relation difficile avec votre copain, votre copine. La tension, l'hostilité, la froideur, mais pas la paix. Il est même possible que bien qu'il n'y ait rien qui ne va pas dans votre vie, vous vous sentiez déprimé, angoissé, voire anxieux, mais pas en paix. La paix, c'est peut-être pas quelque chose auquel on pense très souvent, mais c'est quelque chose auquel tout le monde réfléchit. Chaque être humain désire la paix. Les hippies désirent la paix. Le symbole de la paix était à l'origine un symbole de campagne contre la guerre au Vietnam. Et au final, il est devenu un symbole de paix, d'amour et de liberté. Les hippies voulaient se libérer des structures autoritaires afin de pouvoir exprimer leur liberté en fumant et en écoutant les Beatles. Donald Trump a très envie d'avoir la paix. Il a récemment organisé un rendez-vous secret avec Kim Jong-un. Le but? La paix. Même quand il a menacé le feu et la fureur contre la Corée du Nord, c'était dans le but de garantir la paix. Et moi, j'aime bien me détendre en regardant les films pour enfants. Et il s'avère que même les films pour enfants parlent de la paix. Et voici un clip que j'ai regardé la semaine dernière. Alors, c'est ça la paix ? Voici une question pour vous. Est-ce que vous pensez que vous êtes doué pour organiser votre vie? Ce qui m'a frappé en réfléchissant au thème de la paix, c'est que notre quête de la paix part du principe qu'on est en contrôle de notre vie. À Londres, je pense souvent que si je fais mes courses en ligne, mon bureau est bien rangé, si j'achète mon collègue un grand café, tout ira bien. Je serai en paix. Et puis il neige et tout le monde est furieux. Et les bus sont en retard. Mais c'est vrai que nous essayons d'éliminer les choses qui gâchent notre paix. Comme le travail devient plus stressant, ou ma relation avec ma copine devient plus tendue, je fais recours à des distractions. Je vais à la gym, je réserve un séjour en Grèce, je regarde Netflix toute la nuit. Il s'agit des bonnes choses qui ne marchent pas finalement. On pense que c'est possible d'être en contrôle de notre vie. Mais si nous sommes honnêtes, nous ne sommes pas en contrôle de notre vie. Nous ne sommes pas en paix. Dans quelques instants, je voudrais vous montrer que Jésus-Christ offre une paix qui est tout à fait différente de toutes les solutions ou philosophies du monde. Mais avant cela, est-ce que vous vous êtes rendu compte que même la religion offre un moyen de gérer notre vie afin d'avoir une certaine paix? Je parle de façon très, très générale, mais pensons-y. Les bouddhistes, les hindous cherchent la paix intérieure, comme un peu dans le clip. Ils croient que si vous faites du yoga, si vous méditez, si vous priez assez, vous aurez la paix intérieure. Et une fois que vous avez la paix intérieure, vous pouvez mettre fin à toute la souffrance dans le monde. Pourtant, faut-il être bouddhiste pour avoir la paix, pour être en paix? L'islam aussi a été décrit comme une religion de paix. Le mot paix est l'un des noms d'Allah dans le Coran. Et malgré les attentats, on ne peut pas nier que la plupart des musulmans sont épris de paix. Mais pour un musulman, donc, qu'est-ce que ça veut dire être en paix? Prier 5 fois par jour, faire un pèlerinage à la Mecque, qu'est-ce que c'est? Mes amis catholiques me disent souvent qu'ils ont des doutes ou qu'ils n'ont pas d'assurance, qu'ils ne sont pas en paix. Ils vont à la messe, ils vont à l'église, ils prient et ils se demandent « Est-ce que Dieu m'accepte et je fais assez pour plaire à Dieu ?» On sait que la religion offre un certain moyen de pouvoir gérer notre vie spirituelle pour avoir la paix. Mais à quoi ça sert au final? Qu'est-ce que c'est la paix véritable? Où pouvons-nous trouver une paix qui dure? C'est ça la question de ce soir. Et est-ce même possible d'avoir une telle paix? Ce ne sont pas des questions intellectuelles, ce sont des questions que nous posons tous les jours. Ce sont des questions personnelles, ce sont des questions humaines. Et maintenant, je vais vous donner 5 ou 4-5 minutes pour lancer la discussion autour de vos tables. J'ai écrit quelques questions pour faciliter les discussions. Donc, partagez vos idées par rapport à la paix et on va revenir ensemble dans 5 minutes. Go! La question de notre série, c'est « Est-ce que c'est trop beau pour être vrai ?» Et toute discussion sur la paix devrait être aux prises avec cette question. On jouit de la paix pour un moment, et l'instant d'après, elle a disparu. C'était trop beau pour être vrai. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous découvrirez que Dieu est appelé le Dieu de la paix 5 fois. Et cela est important parce que ça montre que le Créateur de l'univers prend la paix très, très, très au sérieux. Mais est-ce que c'est trop beau pour être vrai? D'ici la fin de la soirée, je voudrais vous persuader que seulement la personne qui croit en Jésus-Christ peut être véritablement en paix. Et par conséquent, si vous ne suivez pas Jésus, la paix, ce n'est pas seulement quelque chose de souhaitable, c'est quelque chose dont vous avez désespérément besoin. Voyez le passage que nous venons de lire, et les versets 11 à 14. Je vais juste les relire. « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » C'est arrivé à un jour réel. Ce n'était pas un film, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas de la propagande politique. C'est arrivé un jour réel. Verset 1. L'empereur Auguste régnait à cette époque. Et c'est arrivé dans une ville réelle, comme Paris, comme Marseille, comme Bordeaux. C'est arrivé dans une ville que vous pouvez visiter même aujourd'hui. Ce n'était pas trop beau pour être vrai. C'est vrai. Verset 11, encore une fois. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre. » Il y a 2000 ans, la paix véritable est devenue possible parce que Jésus-Christ est né. La paix est une personne. Et je voudrais vous montrer, ou Luc voudrait nous montrer ce soir, que ce qui s'est passé ce jour-là, dans cette ville-là, il y a 2000 ans, c'est quelque chose qui pourrait bouleverser notre vie et qui pourrait changer le monde entier à jamais. Nous allons voir trois choses ce soir. Et la première, c'est la base de la paix. La base de la paix, elle est versets 1 à 7. Le monde est souvent un endroit intimidant, désolant, voire triste. Et chaque jour, on est exposé à une vague de nouvelles et d'événements mondiaux et personnels qui menacent de nous submerger. Et dans tout cela, il peut sembler que Dieu, il n'est pas en contrôle. Et sans aucun doute, Joseph et Marie se sont sentis exactement comme ça. Ils étaient des Juifs qui vivaient dans une petite ville en Israël. Pourtant, leur petite ville et leur petite nation étaient sous le contrôle du grand empire romain. Le peuple juif était sous l'occupation romaine. On voyait des soldats partout dans les rues, tous les jours. Et au début du chapitre 2 de l'évangile de Luc, je pense que Joseph et Marie se seraient sentis encore plus troublés que d'habitude. Regardez le verset 1. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'empire. En l'an 4, l'empereur Auguste a ordonné que chaque famille dans l'empire se rende à leur ville de naissance pour remplir un formulaire gouvernemental. Et c'était l'époque avant les transports publics, avant les sondages en ligne. Et vous pouvez imaginer que ça aurait été un voyage éprouvant. Et de plus, verset 5, Marie, elle est enceinte de 9 mois. Donc, comment réagirez-vous si vous deviez marcher 150 km pour remplir un formulaire quand vous étiez presque à terme? Ce serait fatigant, n'est-ce pas? Et le verset 6, pendant qu'ils étaient là, c'est-à-dire à Bethléem, le moment où Marie devait accoucher arriva. Pouvez-vous imaginer les sentiments de confusion, d'épuisement, d'anxiété? Ça doit accabler Joseph et Marie. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive maintenant? Comment Dieu a-t-il pu laisser faire ça? Et nous, on réagit souvent de façon très similaire, n'est-ce pas? On pense que Dieu n'est pas en contrôle. On pense que Dieu a disparu. Pourtant, Dieu n'a pas disparu. Je pense qu'une des raisons pour laquelle on se sent parfois très accablé, c'est parce qu'on sait que les choses devraient être différentes. Il y a quelque chose en nous qui peste contre ce monde de brutes. On ferait n'importe quoi pour que les choses soient différentes. Et parfois, ces rêves inébranlables rendent la douleur encore plus douloureuse. Et le peuple juif, comme Joseph et Marie, c'était la même chose pour eux. Sauf que pour eux, ce n'était pas une chimère. Ils avaient déjà une promesse directement de Dieu dans le livre d'Ésaïe qui parlait d'un avenir glorieux. Et il disait ceci. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Pendant que Joseph et Marie se battaient pour arriver à leur destination, ils ont dû penser que c'était peut-être trop beau pour être vrai. Ils connaissaient peut-être aussi cette promesse du livre de Michée, chapitre 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui ramènera la paix. Alors qu'il faisait nuit et que la pluie commençait à tomber, Joseph et Marie ont dû penser, encore une fois, est-ce trop beau pour être vrai? Mais Luc, par contre, veut nous montrer que pour une fois, que leurs espoirs n'étaient pas sans espoir. Dieu n'a pas disparu. Il est en contrôle total. Voyez le verset 4. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. En effet, Joseph se dirige vers la ville exacte où Dieu avait promis que le prince de la paix serait né. Et de plus, Joseph est un descendant du roi David, le roi promis. Et vous savez quoi? Marie est enceinte. D'un point de vue humain, il semblait que Dieu ait disparu. Tout le monde parlait du recensement de l'empereur. Par contre, du point de vue de Dieu, c'est clair qu'il organise toutes choses, il organise les événements du monde à ses propres fins. Dieu peut changer le cœur d'un empereur pour effectuer un recensement pour que la famille va de Nazareth à Bethléem pour donner naissance au prince de la paix, accomplissant ainsi des siècles et des siècles de prédictions. Dieu n'a pas oublié son monde, il y joue un rôle actif en organisant toutes choses pour le bien de Jésus-Christ, afin que l'humanité puisse avoir la paix. On a dit tout à l'heure que l'une des raisons pour laquelle on n'est pas en paix, c'est parce qu'on se croit capable de pouvoir organiser, de pouvoir contrôler notre vie. Alors voici une partie de la solution. Reconnaître que Dieu est en contrôle de tout. Nous ne nous arrêterons de contrôler notre vie que lorsque nous réaliserons que le Dieu de la paix la contrôle pour nous. Il y a juste un problème. Le Dieu qui peut changer le cœur de l'empereur a oublié de réserver une chambre pour le couple. Verset 7, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Et qu'est-ce qui se passe? Ben Dieu, il n'a pas oublié. Il fait tout pour que le prince de la paix soit né. C'est juste qu'il n'est pas la personne à laquelle on s'attendait. Deuxièmement, le besoin de paix. Le besoin de paix. Alors, le prince de la paix est né et vous attendez à ce qu'il fasse quoi? À tenir un sommet peut-être? Enseigner des cours de méditation? Dénucléariser la Corée du Nord? Mais pendant toute son histoire, la nation d'Israël était soumise aux attaques. Elle était entourée par les nations plus grandes qu'elle, comme un poisson est entouré par des requins. Et le grand espoir d'Israël, c'était que le prince de paix viendrait vaincre ses ennemis. Et quelques versets plus tôt dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, nous lisons ceci. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur de la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Israël a été attaqué par les autres nations parce que Dieu a envoyé ces nations pour le faire. Dieu a créé Israël pour avoir une relation spéciale avec lui. Mais à maintes reprises, Israël s'est détourné de Dieu en rejetant son amour et sa protection. Israël a péché. Et elle a dû vivre sous le jugement de Dieu. Et donc Israël avait besoin non seulement d'un sauveur pour repousser ses ennemis dehors, mais elle avait aussi besoin d'un sauveur qui allait la sauver de l'ennemi du dedans, le péché. Et voici donc pourquoi au verset 10, l'ange dit que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Et verset 11, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Luc, chapitre 1, continue ainsi, « Tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés, de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. » Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Alors, c'est quoi la paix véritable? Selon Luc, la paix véritable, c'est le salut par le pardon de nos péchés. C'est la profonde bonté de notre Dieu. C'est la délivrance de la mort et des ténèbres. La paix véritable, c'est la paix avec Dieu. Et notre situation ressemble beaucoup à celle d'Israël. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Mais chacun de nous a décidé de vivre notre vie en rejetant Dieu. Nous sommes pécheurs, ce qui veut dire que Dieu est notre ennemi. Nous avons tous besoin du pardon de nos péchés à cause de notre rejet de lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est un Dieu de paix. Dieu est engagé dans la poursuite de la paix entre lui et l'humanité. C'est magnifique. Il est allé jusqu'à se faire homme afin qu'on peut être réconcilié, on peut être en paix avec lui. Il doit s'approcher de nous parce que c'est nous qui l'avons offensé. Donc aucune prière, aucun rituel ne peut nous faire s'approcher de lui. Mais il est devenu homme afin qu'on puisse avoir la paix. Et c'est ce qui rend le message du christianisme si fantastique. Le prince de la paix, c'est pas la personne à laquelle on s'attend. Il ne lâche pas de bombes, il ne tue pas ses ennemis. En fait, comme la fin de l'évangile de Luc nous explique, le prince de la paix est venu mourir et ressusciter afin qu'on puisse avoir la paix. Luc 24 dit ceci. Puis Jésus leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Jésus-Christ est mort sur une croix romaine, et il est ressuscité 3 jours après, afin que vous et moi puissions avoir la paix. Et donc, si vous suivez Jésus aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en paix? N'est-ce pas magnifique? On peut être en paix avec Dieu. Troisième chose, l'offre de la paix. Beaucoup de gens essayent de trouver la paix, n'est-ce pas, en faisant du yoga, en méditant, en achetant des meubles à Ikea. Mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ça ne marche jamais. Le problème, c'est que si je ne peux pas avoir la paix si je suis en guerre avec Dieu, si je fais comme si Dieu n'est pas mécontent avec ma rébellion contre lui et que je remplis ma vie de distractions, alors j'évite le problème principal dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle notre monde est en désordre. Nous vivons dans un monde qui est en guerre avec Dieu et Dieu est en colère. Nous voyons son jugement partout, aux infos, dans nos familles, dans nos bureaux. Et donc, si nous venons à Jésus-Christ, si nous nous rendons à lui, nous pouvons avoir la paix. Nous connaissons tous l'histoire des bergers à Noël. Et les bergers, dans ce passage, nous montrent comment répondre à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Regardez les versets 15 à 20. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller. Ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans sa mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant les louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. Vous voyez, les bergers nous montrent comment répondre à la bonne nouvelle de paix que Jésus nous offre. Ils viennent à Christ. Ils disent, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et remarquez comment leur vie change entre le verset 9 et le verset 20. Quand il vient à Jésus, au verset 9, les bergers ont vu l'ange et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais au verset 20, ils repartent en célébrant la gloire de Dieu, en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Sans Jésus-Christ, nous avons tous quelque chose à craindre. Nous sommes condamnés devant Dieu. Nous ne sommes pas en paix. Mais quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il est pardonné de tous ses péchés, gratuitement, et il n'a rien à craindre. Même la mort ne peut lui faire du mal. Notre crainte se transforme en joie. Beaucoup de gens pensent que s'ils croient en Dieu, Dieu va gâcher leur vie. Mais je pense que ce passage nous montre que sans Dieu, on serait tous gâchés dans un sens. C'est seulement au moment où l'on vient à Christ qu'on peut avoir une paix profonde, la paix véritable, une relation rétablie avec Dieu. Mais vous pensez peut-être, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Pour terminer, permettez-moi de vous présenter deux personnes dont la vie a été transformée par Jésus-Christ lorsqu'il a pardonné leurs péchés. La première personne, on rencontre au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Elle est une dame qui vient à Jésus en larmes. Et elle est prostituée et elle reconnaît son péché horrible. Jésus est maintenant adulte et il dit ceci. Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Et ce n'est pas seulement les prostituées qui ont besoin du pardon. Pendant les dernières 2000 ans, toutes sortes de personnes se sont rendues à Jésus et ont reçu son pardon. Même les personnes religieuses. Martin Luther était l'une de ces personnes. Il a commencé sa vie en tant qu'étudiant en droit. Mais après avoir été frappé par la foudre en faisant du cheval, il a décidé de devenir moine catholique. Et Luther était très fervent, il était très pieux, il lisait souvent sa Bible. Mais il a senti que Dieu était en colère avec lui. Sa conscience le troublait beaucoup. Et il n'était pas en paix. Mais un jour, il s'est rendu compte qu'il dépendait de sa propre performance pour plaire à Dieu et que ce n'était pas suffisant. Et un peu plus tard, il a découvert un verset dans la Bible qui lui a expliqué le pardon que Jésus offre. Et voici comment il décrit ce moment-là. « Aussitôt, je me sentis renaître et il me semble être entré par les portes largement ouvertes au paradis même. » Cette semaine, notre Église a organisé une série d'événements pour permettre aux gens de comprendre ce que c'est le message de Jésus et la paix qu'il offre. Et on est ravis de vous voir ici ce soir avec nous pour aborder ce thème et pour poser vos questions. J'espère que vous allez poser vos questions sur ce que j'ai dit et de continuer à réfléchir à ces choses. Mais pour terminer, est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous êtes en paix? Avez-vous accepté le pardon que Jésus offre? Si vous avez toujours des questions, ce qui est très très normal, je vous invite à prendre un évangile de Luc ou de Jean. Il y a d'autres copies sur la table là-bas au coin. Pourquoi pas prendre une heure pour lire un évangile vous-même ou avec quelqu'un d'autre et posez vos questions sur Jésus et ce qu'il est venu faire. Et si vous suivez déjà Jésus, si vous êtes déjà en paix avec Dieu, allez-vous proclamer ce message à d'autres? Ce n'est pas un message à cacher, n'est-ce pas? C'est magnifique, pensons-y. Nous avons un message qui devrait rendre le monde très, très jaloux. Voilà, on va passer encore 5 minutes à discuter des choses Si vous avez des questions, pourquoi pas demander à quelqu'un à côté de vous. Et si vous n'avez pas de questions, j'ai mis deux questions pour commencer la discussion. On va passer 5 ou 10 minutes autour de nos tables. Et après, je passe la parole à Jonathan. Merci beaucoup.